Le débat du jour. Philippe Le Caplain.
Bonsoir. À Pékin, coup de polish pour rendre rutilantes les carrosseries des tout derniers modèles de voitures. Ce sont les ultimes préparatifs avant que s'ouvre, dans quelques petites heures, le Salon International de l'Automobile. L'un des rares rendez-vous maintenu dans le monde en raison du coronavirus. Autant dire que les passionnés, les experts et les clients auront les yeux tournés vers la Chine au cours des prochains jours. Et plus particulièrement sur ce qui apparaît, en théorie, comme étant l'avenir de la voiture, l'électrique. Le marché démarre enfin en Europe. On est sorti du cercle des enthousiastes. Et l'Union européenne veut 30% de véhicules électriques dans 5 ans. Or, passé l'engouement de vouloir sauver la planète et le politiquement correct qui honnit le moteur thermique, diesel en tête, il apparaît que le véhicule électrique a ses limites. C'est car elles sont nombreuses. Le prix, très cher, l'autonomie, trop faible, et aussi la question de savoir si elle est aussi écolo que cela quand on ouvre son capot. Certes, zéro émission quand on roule avec, mais pas vraiment zéro pollution quand il faut la fabriquer. D'où cette question, le monde d'après de la voiture sera-t-il vraiment moins polluant? C'est à débattre maintenant sur RFI.
RFI.
Bonsoir Gilles Bernard, président de l'Association française pour l'itinérance de la recharge électrique des véhicules qu'on appelle également l'AFIREV.
Bonsoir.
Bonsoir Flavien Hennevy, vous êtes en ligne avec nous, directeur de l'Observatoire CTLM de l'automobile, qui est une organisation de crédit filiale de Paribas, c'est ça?
Oui, bonsoir à tous.
Et Pierre Lefebvre est également dans ce studio. Vous êtes rédacteur en chef adjoint de l'Automobile Magazine. Bonsoir.
Bonsoir.
Et vous venez de publier un hors-série justement consacré à la voiture verte. Alors, tout d'abord, un état des lieux pour commencer. Quelques chiffres pour prendre la mesure du développement du marché. Pierre Lefebvre, aujourd'hui, les immatriculations décollent enfin.
Alors, elle décolle, mais il faut quand même savoir que on part de très loin. Hein. Ça reste des chiffres relativement modestes. La voiture électrique la plus vendue en France depuis le début de l'année, c'est la Renault Zoé. On est aux alentours de 20 000 ventes. C'est pas mal, mais on est très très loin, évidemment, des chiffres des autres voitures, puisque le marché, en temps normal, pas cette année sans doute, Philippe, mais en temps normal, le marché français, c'est 2 millions de voitures par an.
Flavien Hennevy, est-ce que la France est dans la norme ou en retard par rapport à ses voisins européens? Je pense à l'Allemagne notamment.
Non, la France est plutôt un bon élève, même si c'est vrai que les chiffres restent faibles. Le pays leader incontesté en la matière d'électrification du parc, c'est la Norvège, qui a une politique très incitative depuis maintenant bien longtemps. Mais la France, qui a fait de l'électrique maintenant une priorité, est plutôt un bon élève en Europe. En même temps que je dis ça, il faut quand même rappeler que ce qui conditionne, ce qui drive, si je puis dire, les immatriculations aujourd'hui, c'est essentiellement la réglementation, notamment en matière d'émissions de CO2, ce sont des réglementations européennes. Donc de toute façon, tous les pays européens aujourd'hui vont être obligés de se mettre à l'électrification des voitures.
Voilà pour le bilan à l'instant T. Parlons maintenant de ce qui fâche, du portefeuille. Il faut avoir les moyens pour rouler à l'électrique. Dans le JDD de dimanche dernier, Carlos Tavares, qui est le PDG de PSA, autrement dit de Peugeot Citroën, déclarait ceci. « Je sais la faire propre, ma voiture, mais pour l'instant, je ne sais pas la rendre abordable pour tous et d'ajouter que c'est une technologie hors de prix que la majorité de la classe moyenne ne peut pas acheter. Une voiture zéro émission, elle est plus chère de combien environ ?» Pierre Lefebvre.
Alors c'est une bonne question. Ça dépend de quelle voiture on parle. Si on parle d'une citadine, avec les incitations fiscales à l'heure actuelle, les moins chères du marché vont être une Volkswagen e-Up ou une Renault Twingo électrique. C'est une voiture que Renault s'apprête à commercialiser. On va être aux alentours de 17-18 000 euros, ce qui commence à faire très très cher pour une toute petite voiture qui fait 3,60 m de long.
Voilà,
après, si on parle de véhicules un peu plus gros, familiaux, vous allez prendre par exemple un Kia Iniro avec sa batterie la plus faible, c'est un véhicule qui dépasse déjà les 35 000 euros en prix de base.
Dites-moi si je me trompe, mais la première Peugeot 208 à essence, elle coûte 15 500 euros. En version électrique, c'est 32 300, le double du prix. C'est résolument là, Gilles Bernard, président donc de la FIREV, un frein important.
Oui, tout à fait, c'est tout à fait exact, bien entendu, mais il faut juger l'histoire dans la durée. Nous sommes au début de l'histoire, et quand on a sorti les téléviseurs à écran plat, alors que tout le monde avait son téléviseur à tube, ça coûtait beaucoup plus cher. Et puis, le marché décollant, eh bien finalement, aujourd'hui, on n'achète plus que des télévisions à écran plat qui coûtent beaucoup moins cher. Donc la voiture électrique, ça va être pareil. Un des facteurs le plus coûteux de la voiture électrique, c'est la batterie. Et de fait, c'est vrai que la batterie coûte cher. Néanmoins, son prix a été divisé par 6 en 8 ans, à peu près, depuis les 8 dernières années. Et on attend, les constructeurs automobiles annoncent des baisses d'à peu près la moitié du prix dans les quelques années qui viennent, 5 années qui viennent. Elon Musk, par exemple, pour Tesla, a annoncé une division par 2 du prix de sa batterie dans les 5 ans.
Ouais, en attendant, pour que la voiture électrique ne cale pas, eh bien, il faut la faire démarrer, et on va dire que l'assistance électrique, en l'occurrence, ce sont les aides des différents États, Flavien Neuvy. Elles sont nombreuses. Prenons l'exemple de la France.
Oui, la France soutient la vente de voitures électriques depuis bien longtemps. Et c'est vrai que malgré ces aides, elles n'ont pas décollé. Alors c'est plusieurs milliers d'euros avec un bonus écologique qui est aujourd'hui de 7000 euros et des primes à la conversion qui peuvent également accompagner ce bonus. Donc ça veut dire que sur chaque vente de voiture électrique, le contribuable subventionne l'achat de cette voiture électrique. Et malgré cette aide ou ces aides, la voiture électrique reste plus chère à son équivalent thermique. Ce qui veut dire que la voiture électrique aujourd'hui n'est pas compétitive. Alors ça va peut-être évoluer effectivement avec les progrès technologiques, l'augmentation de l'autonomie des batteries, mais on n'en est pas encore là. Et au-delà du prix pour les clients, il faut aussi rappeler que pour les constructeurs, ce sont des voitures qui sont à très faible marge. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les constructeurs ne gagnent pas d'argent dessus ou très peu d'argent. Donc c'est pas créateur de valeur pour l'industrie automobile, au moins pour l'instant.
Les constructeurs qui n'offrent d'ailleurs pas de version bas de gamme, hein, comme sur les modèles essence ou diesel, clairement aujourd'hui c'est du haut de gamme l'électrique, non ?
C'est pas totalement vrai, ça va venir. En fait, vous savez, souvent, quand des nouvelles technologies elles sont introduites, on commence, et c'est ce que disait tout à l'heure monsieur, c'est que on commence par avoir des produits très chers, et ça descend petit à petit. Après, il faut aussi comprendre clairement, à partir du moment où c'est cher, ça va être une clientèle qui a un gros pouvoir d'achat, donc le meilleur exemple, c'est Tesla, c'est une marque à la mode. La Tesla Model 3, c'est une berline donc qui se vend très bien en France, plutôt pas mal, on va dire, pour une voiture électrique. Mais c'est une voiture dont le prix de base est largement au-delà des 40 000 euros. Et parmi la clientèle de Tesla, en fait, c'est pas essentiellement des particuliers. Bien au contraire, bien souvent, ce sont des entreprises qui vont acheter ces voitures-là pour les intégrer dans leur flotte, pour faire plaisir à leur cadre et leur cadre dirigeant. Et donc, ces entreprises-là, elles ont les moyens de financer de telles voitures.
Gilles Bernard, une telle politique de soutien à la voiture électrique, ça coûte cher aux constructeurs, on vient d'en parler, ça coûte cher également aux contribuables. Est-ce que c'est un système pérenne ?
Ah, sûrement pas. Non, ça n'est pas un système pérenne et ça n'est pas fait pour être pérenne. C'est fait pour amorcer la pompe et permettre cette transition. C'est exactement ce qui se fait pour l'électricité avec les subventions aux panneaux photovoltaïques ou aux éoliennes qui coûtent extrêmement cher aujourd'hui et pour lesquels il va falloir attendre qu'effectivement l'industrialisation et le développement abaissent les coûts et permettent finalement de ne plus avoir à les subventionner. Mais aujourd'hui, ça coûte très cher. Ben, il en va de même pour la transition de la voiture vers l'électricité, ça coûte cher.
Autre handicap, c'est l'autonomie, le point faible de la voiture électrique. Cela reste essentiellement un véhicule urbain et non routier. Des voitures conçues pour des trajets à vitesse modérée, terrain plat, urbain de préférence. Puis il faut pas que ce soit l'hiver, hein, parce que dès qu'on met à chauffer, ça influe sur l'autonomie. Ça, c'est vraiment le gros souci aujourd'hui pour que le client, l'automobiliste, adhère, s'il a les moyens, au véhicule électrique. Pierre Lefebvre, rédacteur en chef adjoint de l'Automobile Magazine.
Il est évident qu'il est très difficile de faire d'une voiture électrique sa voiture principale. Parce que, certes, une voiture électrique pour les besoins du quotidien, c'est très bien pour aller au travail, pour aller chercher les enfants à l'école, pour éventuellement partir en week-end. Pas trop loin, voire de la famille. Le souci de la voiture électrique, c'est que dès que vous voulez faire des grands trajets, donc de prendre l'autoroute, c'est là où c'est leur principale faiblesse. La consommation d'électricité explose, l'autonomie réduit d'autant. Nous mesurons plusieurs centaines de voitures par an selon un protocole très rigoureux. Le record absolu pour le moment, c'est 320 km d'autonomie. Donc c'est pas mal, vous allez me dire, mais 320 km d'autonomie, c'est beaucoup moins qu'une voiture thermique. Et surtout, derrière, se pose le problème de refaire le plein.
Absolument. Et c'est toute la question de la recharge des batteries. Les bornes de recharge peine à suivre pour faire le plein d'énergie. C'est encore un véritable casse-tête. C'est le talon d'Achille aujourd'hui de la voiture électrique, Gilles Bernard, puisque je rappelle que vous êtes le président de l'Association française pour l'itinérance de la recharge électrique des véhicules, justement.
Oui, tout à fait. Donc effectivement, c'est vrai qu'il y a un énorme effort que nous avons commencé de faire et qui va s'amplifier. D'une part, sous l'impulsion de l'État d'ailleurs, pour développer le nombre de bornes de recharge, d'ailleurs accessibles au public, mais aussi et surtout, je dirais, les bornes là où le véhicule stationne de nuit, parce que c'est là où il faut le recharger de manière prioritaire. Et puis faire en sorte que l'accès à ces bornes soit le plus facile possible pour l'utilisateur.
On a déployé trop peu de bornes de recharge sur nos routes, reconnaissait il y a de cela quelques jours Jean-Baptiste Djebbari, le ministre délégué au transport, sachant que le gouvernement a un véritable plan pour installer des recharges. Je crois que c'est 100 000 bornes en accès public à la fin de l'année prochaine. C'est pas la première fois que des annonces de ce type sont faites.
Non, c'est la première fois qu'on annonce un nombre aussi élevé de bornes. Jusqu'ici, l'annonce était en fait calée sur une borne accessible au public pour 10 véhicules. Et on y est. On est même à mieux que ça. L'idée, c'est qu'effectivement, compte tenu de la forte croissance de parts de marché qu'il va falloir réaliser, eh bien, il faut en effet maintenant anticiper, accélérer le nombre de bornes. Mais je voudrais revenir sur le problème de l'autonomie des véhicules électriques et du besoin de recharge, parce que il faut savoir quand même raisonner dans le bon sens, si je puis dire. Et donc, il faut en revenir aux statistiques d'usage. Aujourd'hui, un véhicule particulier, ça fait environ, en moyenne, la moyenne, c'est 12 000 km par an. Si on dit qu'il est utilisé tous les jours, ça fait 33 km dans la journée. Bon, disons que arrondissons à 50, et en fait, pratiquement 80-90% des déplacements en voiture se font avec, dans la journée, pas plus de 50-60 km.
Oui, mais il y a les vacances. Et les vacances, on fait pas
d'accord,
de 33 bornes.
D'accord. Okay, mais si vous voulez, vouloir absolument avoir une voiture qui puisse contenir toute la famille, tous les bagages, et faire 1000 km aller-retour une fois dans l'année et l'utiliser tous les jours pour ses besoins quotidiens, ça va pas le faire sur le plan de la transition énergétique. Donc il faut raisonner autrement sur la mobilité de demain.
Aujourd'hui, il y a quelque 30 000 points de recharge au sein de l'Hexagone, Pierre Lefebvre, hein, environ.
Alors le chiffre est très difficile à avoir, mais j'ai un exemple en revanche très concret par rapport aux annonces gouvernementales. Il y avait un réseau en France, il existe toujours d'ailleurs, c'est une filiale d'EDF qui s'appelle Ivisia, donc qui avait monté un certain nombre de bornes de recharge rapide à proximité, sur le réseau autoroutier français avec un maillage pas trop mal fichu. Il faut quand même savoir qu'il y avait une centaine de bornes encore l'année dernière. Il y a eu un problème de fournisseur et puis il y a 80% des bornes qui ont été mises à l'arrêt total, et puis elles ne seront pas remplacées, du moins elles ne seront pas toutes remplacées, et donc clairement il y a un moment où le discours n'est pas vraiment très très cohérent avec la réalité. Au-delà de ça, au niveau des bornes, c'est quand même la jungle, puisque vous avez énormément en fait d'opérateurs privés, donc il faut le bon abonnement, la bonne carte pour pouvoir recharger sa voiture. Moi, je pose une question toute bête, par exemple, c'est le législateur, pourquoi n'impose-t-il pas un règlement de sa facture d'électricité en carte bleue? Ça serait tellement plus simple, ça rendrait tellement plus simple la vie des gens.
Gilles Bernard?
Oui, alors en fait, l'avenir, c'est les services, en réalité. Et donc, ça n'est pas de payer sa recharge en carte bleue. C'est comme si on disait, le téléphone portable, on devrait payer sa communication à l'unité. Chaque fois que je l'appelle, j'ai X centimes à payer avec ma carte bleue pour payer ma communication. Non, l'avenir, c'est des services avec des forfaits, et notamment l'usage d'un véhicule incluant les recharges pour un forfait mensuel. Éventuellement aussi avec une facture mensuelle détaillant les consommations. Mais tout ça avec un accès extrêmement facile aux bornes, avec une simple carte, voire même sans carte du tout, puisque nous préparons une solution future où, en branchant le véhicule va communiquer tout seul avec la borne, s'identifier, et la borne va l'autoriser à se recharger automatiquement. Donc c'est vraiment des services d'avenir qui vont résoudre toutes ces difficultés. Il ne faut pas juger la voiture électrique sur une industrie qui est balbutiante, qui débute. La voiture thermique, quand on revient au 1890 ou 1900, eh bien, c'était pas brillant comme voiture. La voiture électrique va faire d'énormes progrès et tous ces problèmes seront résolus dans les prochaines années.
Puisqu'on parle de sous, justement, déjà, Fabien Neuvy, directeur de l'Observatoire CTLM de l'automobile, le prix d'une recharge, ça varie considérablement, je crois, de 10 à 60 euros selon les endroits. En tout cas, c'est ce que dit le PDG de Peugeot Citroën.
Oui, alors il faut aussi rappeler, effectivement, dans les atouts de la voiture électrique, c'est que le 100 km électrique coûte beaucoup moins cher en consommation, si je puis dire, en consommation d'électricité que 100 km thermique.
À peu près d'ailleurs, 30% de moins, plus?
Oh non, c'est 2 euros le kilomètre à peu près, hein, bon, un peu, approximativement aujourd'hui. 2 euros les 100 km, pardon.
Oui,
donc,
si
vous voulez, quand vous faites 7 litres au 100 avec le prix du gasoil ou de l'essence aujourd'hui, vous voyez la différence, elle est quand même assez énorme. Malgré tout, si vous voulez, le problème de l'autonomie est un problème réel parce que c'est une voiture, la voiture électrique est une voiture qui donc est moins performante que son équivalent thermique en termes d'autonomie, plus difficile à recharger et qui est plus chère. Donc ça veut dire que pour les automobiles, ça revient à acheter une voiture plus chère pour moins bien. Donc c'est pas très facile de passer à ça. Et puis, sur les bornes, juste un mot quand même, parce que les pouvoirs publics ont fait beaucoup de multiples annonces depuis 10 ans. Je me souviens du plan Borloo il y a plus de 10 ans, hein, c'était en 2009, qui annonçait des milliers de bornes de recharge électrique. Et au final, ça a du mal à décoller parce que, entre autres, on ne sait pas qui va payer. Est-ce que ce sont les pouvoirs publics? Est-ce que ce sont les pétroliers? Est-ce que ce sont les collectivités locales? Si vous voulez, personne n'a réellement envie d'accélérer dans le domaine parce que ça coûte cher.
Sachant que l'Allemagne, elle, va investir quelques 2,5 milliards d'euros supplémentaires pour développer le parc des bornes de recharge. Vous écoutez le débat du jour sur Radio France Internationale.
Le débat du jour. Philippe Le Caplain.
Le monde d'après de la voiture sera-t-il vraiment moins polluant? C'est la question du soir. Parce que cette voiture propre, elle a beau être propre, elle a des batteries sales. Les voitures électriques ne sont pas la panacée en matière environnementale. Pollution, travail des enfants, eau. Elles ont leur face sombre, nous en avons parlé maintenant. Sachant que le nickel est l'un des trois métaux rares des batteries, aux côtés du lithium et du cobalt, puisqu'il augmente la puissance, il donne de l'autonomie, permet de diminuer les quantités de cobalt, mais son extraction est loin d'être neutre. Ces métaux ne sont pas toujours très verts ni très éthiques, Gilles Bernard.
Ah ben oui, ça, il est clair que on a besoin pour les batteries, comme d'ailleurs pour tous nos appareils, tout l'équipement électronique que vous avez ici, tous les PC, tous les smartphones consomment des terres rares, des métaux rares, dont l'approvisionnement pose des difficultés. Et donc, il en va aussi pour tous les moteurs électriques qui servent pour les ascenseurs ou pour les voitures, et les batteries y compris. Donc, de fait, c'est un énorme sujet pour l'ensemble de l'activité humaine de demain, dans un monde moderne, sur lequel il faut travailler. Des recherches sont en cours pour, par exemple, ne plus utiliser de cobalt dans les batteries. Et il y aura bientôt des nouvelles générations de batteries sans cobalt, voire sans terres rares, pour autant que ce soit effectivement économiquement acceptable.
En attendant, il y a également le très mauvais bilan carbone du transport des batteries, Flavien Neuvy, des batteries qui parcourent jusqu'à 10 000 km pour rejoindre les chaînes de montage automobiles en Europe.
Oui, parce que aujourd'hui les batteries sont essentiellement asiatiques. Hein. Le top 10 mondial des fabricants de batteries pour les voitures électriques est asiatique. Ça veut dire qu'elles viennent de loin. Ça veut dire aussi d'ailleurs qu'une partie de la valeur ajoutée de la voiture électrique, enfin la grosse partie de la valeur ajoutée de la voiture électrique part en Asie. C'est quand même pas un petit sujet. Et puis, si vous voulez, au-delà de l'impact environnemental du transport de ces batteries, il y a également la question de la production électrique, évidemment. Le mix énergétique électrique fait varier le bilan carbone de la voiture électrique. Alors quand on est en France avec de l'énergie nucléaire, on va dire que le bilan carbone est plutôt très largement favorable par rapport à la voiture thermique. Par contre, si on est en Allemagne, c'est plus mitigé. Puis si on est en Pologne, encore plus.
Pourquoi ? Parce que l'électricité est fabriquée à base de charbon, c'est ça ?
Oui, c'est ça, absolument, ouais. Notamment en Chine. Donc si vous voulez, en termes de lutte contre le changement climatique et des émissions de CO2, il faut prendre l'ensemble de la chaîne du puits à la roue, comme on dit. Et évidemment, la voiture électrique n'est pas une voiture propre. Elle a des avantages pour la qualité de l'air en ville, par exemple, elle est imbattable. C'est-à-dire que si vous n'avez que des voitures électriques demain dans Paris, dans les grandes métropoles, la qualité de l'air s'en trouve considérablement améliorée. Mais ce n'est pas une voiture strictement propre.
Et puis il y a ce que dit Amnesty International, l'extraction du cobalt, un des composants des batteries, pose problème en termes de violation des droits humains. C'est tout l'impact social de la voiture électrique, puisqu'Amnesty dénonce les conditions d'extraction, notamment en Afrique. Il faut par exemple savoir qu'en République démocratique du Congo, le nickel, qui est produit à 60% en RDC, ce métal est associé au travail d'enfants qui creusent à main nue dans des mines artisanales pour à peine $2 par jour. peu près 2 euros, on va dire. Pierre Lefebvre, ça ternit quand même la belle image de la voiture électrique blanche, bleue, qui respecte les marguerites et les petits oiseaux.
Je pense malheureusement que le nickel, comme d'autres ressources naturelles, on peut prendre l'exemple du pétrole, implique malheureusement des très mauvaises pratiques. Le pétrole a créé de nombreuses guerres. Hein. On se souvient tous de la guerre du Golfe. Il n'y avait pas forcément que des armes de destruction massive. Ouais. Donc, c'est aussi un autre souci. Surtout, ça prouve une chose, c'est que malheureusement, la voiture électrique, elle est un petit peu vendue comme étant la solution de la mobilité. Mais ce n'est pas la solution. C'est l'une des solutions.
On va voir ça dans quelques instants. Il y a aussi le problème du recyclage des batteries en fin de vie qui pose problème, Flavien Neuvy.
Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, ce problème n'est pas un gros problème dans la mesure où il y a peu de voitures électriques qui circulent. Le parc roulant est assez faible, donc c'est une question qui ne se pose pas encore. Elle se posera. Après, on peut quand même penser que sur ce sujet-là, on est capable d'avoir des filières performantes de recyclage qui permettront effectivement d'éviter des catastrophes écologiques. On le voit dans d'autres secteurs d'activité, on a vraiment de bonnes filières de recyclage. Donc, ce n'est pas le domaine qui m'inquiète le plus. Mais c'est vrai que pour l'instant, on n'en parle pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de voitures électriques en circulation et que donc c'est un petit problème pour le moment.
Gilles Bernard, vous y faisiez allusion tout à l'heure au fait qu'il fallait fabriquer des batteries plus vertes. Est-ce que ça résoudrait ce problème de recyclage qui est important ?
Alors, le problème de recyclage est important et aujourd'hui, il se pose pour l'essentiel pour toutes les batteries qu'on utilise dans les smartphones, dans les PC et autres batteries au lithium-ion qu'on trouve un peu partout et qui aujourd'hui, en effet, sont envoyées en Asie pour être recyclées. Donc il est essentiel de développer une industrie de recyclage. Je signale qu'il y a des annonces notamment récentes de Veolia avec un partenaire pour justement développer des usines de recyclage en France. On l'a dit aussi d'ailleurs, il faut développer le plus possible de fabrication en France. J'ajouterais que pour les voitures électriques, il y a une excellente nouvelle, c'est que le vieillissement des batteries est bien moins élevé que ce qu'on pensait et que, en pratique, une batterie dans une voiture électrique dure facilement 8 ans, 8-10 ans. Ça se traduit par une légère baisse de capacité et au bout de 8-10 ans, on considère que la baisse de capacité est trop importante pour continuer. Néanmoins, on a une seconde vie pour les batteries, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on les utilise dans des installations fixes et donc une batterie de voiture électrique peut durer 20 ans pratiquement d'usage et donc du coup, il n'y a pas de recyclage de voiture électrique aujourd'hui parce qu'on n'a pas besoin. Pour le moment, elles sont utilisées toujours en service.
Pierre Lefebvre, quand la batterie perd ses fonctions premières, on va dire ses capacités, qu'est-ce qui se passe?
Ça veut dire ça coûte extrêmement cher.
Il faut les remplacer, mais ça veut dire aussi qu'il y a le problème du marché de l'occasion.
Alors, effectivement, il y a le problème du marché de la voiture d'occasion.
Qui pourrait contribuer à démocratiser la voiture.
C'est un sujet tabou chez les constructeurs automobiles, ça. Quand on leur demande combien coûte une batterie sur un véhicule électrique, généralement...
3% du prix, à peu près, non?
Alors, moi, j'ai entendu, à propos d'un gros véhicule allemand, aux alentours de 25 000 euros. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, c'est effectivement 30% du prix de la voiture, mais la voiture, au bout de 8 ans, évidemment, elle ne vaut plus les 60, 80 000 euros qu'elle valait neuve. Donc, sur le marché de l'occasion, la personne qui va tenter d'acheter cette voiture-là, la personne prend aussi le risque d'avoir ce problème-là.
Donc, c'est la démocratisation, parce qu'on peut se dire, j'achète d'occasion, je paierai moins cher, mais si je me retrouve avec une voiture qui est inopérante,
c'est une prise de risque.
C'est pas le cas. Vous avez un excellent exemple différent et qui est beaucoup plus clair, c'est celui de Renault. Qui vend sa voiture en proposant la location de batterie. C'est une option. Et donc, au lieu de l'acheter, on la loue, et Renault s'engage à changer la batterie si la capacité diminue. Et donc, vous avez un prix de location qui est de l'ordre de 70 euros par mois. Et donc, à partir du moment où vous roulez suffisamment, puisqu'on fait énormément d'économies par rapport au pétrole quand on se recharge en électricité et qu'on roule au maximum en électricité, eh bien, vous avez globalement une mesure très claire de ce que vous coûte une voiture à l'usage.
Alors, je vais juste apporter une petite précision par rapport à ce que M. Gilles Bernard vient de dire. C'est que 79 euros par mois, c'est pour un contrat pour 7500 km par an. Donc, c'est beaucoup d'argent pour une voiture qui va avoir un kilométrage très faible tous les mois.
Et puis, il y a autre chose, Flavien Neuvy, directeur de l'Observatoire CTLM de l'automobile, c'est l'impact que peut avoir la voiture électrique sur le réseau des garagiste, parce que c'est toute la question de l'entretien et de la réparation. A priori, ce sont des voitures fiables qui ont besoin de peu d'entretien.
Oui, c'est une question qui est essentielle. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les pouvoirs publics et l'Europe fait le choix de l'électrification forcée du parc, c'est de ça dont il s'agit, il faut réfléchir aux conséquences sociales à plus long terme. Déjà, pour les constructeurs automobiles, c'est une voiture qui nécessite moins de main-d'œuvre. Donc ça veut dire potentiellement moins d'emplois. Pour les équipementiers, notamment tous ceux qui sont spécialisés dans la fabrication des moteurs, bah, une voiture électrique, elle n'a plus de moteur. Donc ça veut dire aussi que se pose la question de l'emploi chez les équipementiers. Et enfin, comme vous le disiez, les concessionnaires automobiles qui tirent l'essentiel de leur rentabilité des ateliers, hein, l'entretien des véhicules, les vidanges, etc., etc., bah une voiture électrique, elle n'a pas besoin d'entretien, ou très peu. Alors bien sûr, il y a toujours des pneus, mais si vous voulez, pour le reste, c'est beaucoup plus simple. Donc ça veut dire que à long terme, quand on aura beaucoup de voitures électriques, et il y en aura beaucoup de toute façon, c'est obligatoire compte tenu de la réglementation, évidemment se posera toutes ces questions. Ce qui est étrange, c'est qu'aujourd'hui, on ne se les passe pas beaucoup. Alors, il y a quelquefois les dirigeants de constructeurs qui la posent, cette question, dans des interviews, mais c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup.
L'électrique présentée comme l'avenir de l'automobile, est-ce vraiment le cas? N'y a-t-il pas d'autres solutions? Je pense notamment à l'hybride. Hybride, c'est-à-dire une voiture mi-thermique, mi-électrique, alors peut-être pas dans ces proportions-là d'ailleurs. Une course à l'hybride est lancée cet automne avec Toyota qui commercialise sa nouvelle Yaris, à tel point que Renault vient d'ailleurs de débaucher le directeur de l'usine tricolore de la marque japonaise qui est à Valenciennes dans le Nord, qui orchestrait la fabrication de ces fameuses petites hybrides. Est-ce que ce n'est pas plutôt là l'avenir de l'automobile, Pierre Lefebvre?
Ce qui est certain, c'est que c'est un premier pas vers l'automobile propre. Alors, pardonnez-moi pour le terme propre, mais plus propre du moins qu'une 100% thermique. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'une voiture hybride, c'est une technologie qui coûte beaucoup moins cher qu'une voiture électrique et ça permet de réduire sa consommation de carburant. Alors certes, on consomme toujours de l'énergie fossile, on dégage toujours des émissions de CO2, sauf que en revanche, on en dégage moins qu'avec une voiture thermique traditionnelle.
Flavien Nevy, vous avez une fourchette à nous donner. Pierre Lefebvre nous dit moins cher par rapport à une voiture électrique. C'est entre la voiture électrique et la voiture thermique, la voiture hybride, en termes de prix?
Oui, ça dépend des modèles. Ce qui est sûr, si vous voulez, et ça on peut, en matière de prévision, il faut toujours être très prudent, mais ce qui est sûr, c'est que de toute façon, toutes les voitures seront électrifiées, et qu'elles soient 100% électriques ou hybrides. Mais c'est vrai que l'hybridation permet quand même de répondre à un certain nombre de problématiques liées à la voiture 100% électrique et que effectivement à l'avenir les ventes de voitures hybrides vont certainement progresser pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer. Mais c'est certainement, enfin la voiture 100% électrique elle aura toute sa place, notamment dans les grands centres urbains. De là à dire effectivement que c'est la solution de mobilité seule et unique solution à l'avenir, je ne pense pas.
En tout cas, le marché a plus que triplé sur les 5 dernières années. Vous pensez, Gilles Bernard, que c'est la solution pour essayer de naviguer entre les inconvénients de la voiture thermique et les inconvénients dont on a parlé de la voiture électrique?
Non, je n'y crois pas beaucoup. C'est une optimisation de la voiture thermique, c'est-à-dire que ça consomme toujours du pétrole. Simplement, ça en consomme un petit peu moins, mais au prix d'une complication. Or, on l'a dit, une voiture électrique, c'est la moitié des pièces en moins par rapport à une voiture thermique, et c'est donc beaucoup moins d'entretien, ce qui veut dire qu'une fois amortis tous les coûts actuels de développement et de mutation des constructeurs automobiles qui expliquent le prix des voitures électriques, la voiture électrique deviendra beaucoup moins chère qu'une voiture thermique, et y compris beaucoup moins chère à l'usage, puisqu'il y aura très peu d'entretien.
Et pour accompagner la transition énergétique, est-ce que l'avenir ne serait pas à l'hydrogène? Expliquez-nous le principe rapidement, Pierre Lefebvre.
Une voiture à pied à combustible, une voiture à hydrogène, ouais. C'est une voiture qui va finalement, à partir d'une réaction alors chimique entre guillemets, être capable de fabriquer sa propre électricité qui va lui permettre d'être propulsée. C'est une voiture qui ne rejette que de la vapeur d'eau. Sur le principe, c'est génial parce que c'est une voiture électrique qui n'a plus de problème d'autonomie, qui n'a plus de problème de recharge. C'est-à-dire que c'est des voitures déjà qui peuvent parcourir 5, 600, 700 kilomètres et dont le plein ne va pas prendre plus de temps qu'une voiture thermique classique.
Et on en est encore qu'aux études ou ça devient une réalité?
Alors, c'est entre guillemets une réalité, mais une réalité très chère, puisque c'est une technologie qui est jeune. Donc, il y a quelques constructeurs qui se sont lancés là-dedans. On pense à Toyota, évidemment, avec la Mirai. Il y a Hyundai aussi qui commercialise une voiture en France qui s'appelle la Nexo. Donc, c'est un SUV. parce que c'est arrivé quand même. Et donc, qui s'est vécu, qui coûte soit de mémoire pas loin de 80 000 euros.
Et on aura certainement l'occasion d'en reparler sur RFI. Voilà en tout cas ce qu'on pouvait dire sur la voiture électrique qui accélère, mais qui cherche encore à faire sa route.